France Musique.
Bonjour, et à l'instant, c'était La Mère de Claude Debussy avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Mico Franck, mais un Debussy peut en cacher un autre, vous verrez dans un instant. Merci d'avoir choisi France Musique, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Quand la musique va-t-elle revenir ici à la maison de la radio? Bonne nouvelle, c'est pour très bientôt, dans quelques jours. Mais comment? Quel concert? Quand exactement? Michel Aurier, le directeur de la musique et de la création à Radio France, nous dit tout. Il sera notre invité à 8h50. Les annonces du ministre de la Culture de Franck Riester, donc, sur l'ouverture progressive des salles de spectacle, ces annonces interpellent les professionnels. Ils demandent moins d'improvisation, plus de préparation et surtout ils attendent les annonces cet après-midi d'Edouard Philippe. C'est au programme de Classique Info. Rendez-vous avec Sophie Anastasio à 9h20. Ce qui se passe à Hong Kong reste en Chine. C'est en substance ce que répond Pékin à Washington, qui demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le Parlement chinois est en train de valider de nouvelles règles de sécurité qui vont mettre à mal les libertés de cette ancienne colonie britannique. On voit cela tout à l'heure dans le journal d'Olivier Denré. Ce sera à 8h30.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique avec, vous en avez de la chance, l'Orchestre National de France.
Thank you.
Debussy, le matin d'un jour de fête, extrait d'Iberia. C'était l'Orchestre National de France avec à la baguette son directeur musical Emmanuel Krivine et ses jours de fête aujourd'hui, puisqu'on annoncera dans un petit peu moins d'une heure avec Michel Aurier, notre invité, tous les concerts qui vont reprendre ces prochains jours, ces prochaines semaines, ici à la Maison de la Radio, certes sans public. Et puis on en parlait hier avec notre invité, la violoniste Lia Petrova. Toutes nos équipes de Radio France reprennent ce soir pour la première fois depuis près de 3 mois, l'enregistrement de concerts ces salles Cortot. Bien sûr, pour l'instant, sans public, mais nos micros et nos ondes, ensuite, sont là. Le nom est rigolo et les artistes sont rémunérés, c'est important, on en a déjà parlé. Classique sur Canapé propose tous les jeudis à 18h des concerts de musique de chambre, c'est en direct, c'est en streaming sur internet, donc avec de jeunes musiciens. Ce soir, le violoniste Romuald Grimbert-Barré et le pianiste Guillaume Vincent ont composé un programme qui va de Debussy, lui encore, à Clara Schumann. L'accès à ces concerts classiques sur Canapé n'est pas cher, c'est 7 €. L'accès, la place virtuelle, si vous voulez. Guillaume Vincent, dont le dernier disque est consacré à Franz Liszt, il est sorti en début d'année chez Naïve. Son titre, Black Liszt. C'est un jeu de mots, Black Liszt, liste noire. Bon, j'ai mis plusieurs semaines à comprendre, j'avoue. Il rassemble ce disque des pièces pour l'essentiel méconnues du compositeur romantique. Enfin, pas toutes. Thank you. Franz Liszt, Liebestraum, le troisième rêve d'amour sous les doigts de Guillaume Vincent. Il me semble que cette musique, d'ailleurs, on l'entendait dans certains Lemme Show, mais jouée à l'orgue. Sous les doigts de Guillaume Vincent, c'est un disque Black Liszt, donc une nouveauté parue chez Naïve. France Musique, 8h11, tous les samedis à 8h25 pour le coup dans Musique Matin. Marc-Olivier Dupin se passionne dans sa chronique Battement de cœur pour la pratique. Chorale, cœur, c'est H-O-U-R. Marc-Olivier Dupin, compositeur également, ancien directeur de France Musique. C'est lui, ce matin, la voix qui a choisi pour vous, pour nous tous, une musique.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour, heureux de célébrer le matin avec vous. Oui, il y a des musiques qui conviennent particulièrement au matin. Par exemple, et à contrario, la mort d'Isolde de Wagner ou la nuit transfigurée de Schoenberg sont des chefs-d'œuvre absolus, mais qui ne correspondent pas, pour moi, à l'humeur matinale. Alors, quelles sont les caractéristiques des musiques pour commencer la journée? Subjectivement, je dirais un rythme entraînant, un tempo qui pulse, un thème plutôt obsessionnel. Sont à éviter la Castafiore de Tintin, l'hypercomplexité de certaines œuvres symphoniques, la mélancolie d'un romantisme désespéré, le rap ringard, le post-sérialisme mal maîtrisé, un jazz trop sirupeux et les musiques qui se prennent au sérieux. Que reste-t-il? Sans réfléchir, voici ma liste spontanée des 10 premiers titres qui me viennent à l'esprit. 1. Du Bach. 2. Encore du Bach. 3. Toujours du Bach. 4. La valse de la Belle au bois dormant de Tchaïkovski. 5. Le début de Hagon de Stravinsky par Rosbeau, bien évidemment. 6. La danse des sauvages de Rameau par Sokolov. 7. Le Liebeslied de Kreisler par Kreisler. 8. Quelques variations du Don Quichotte de Strauss avec Tortelier. 9. Un peu de West Side Story. Et 10. De Dowland, « Oh, Mistress Mine ». Et pour ce matin, le duo de la cantate 78 de Bach avec Philippe Hervaigue.
Wir heilen mit Schwaren, duo de la cantate 78 de Jean-Sébastien Bach, les voix d'Ingrid Schmidt-Husen et Charles Brett, la chapelle royale dirigée par Philippe Hervègue, le choix ce matin de Marc-Olivier Dupin. On le retrouve samedi à 8h25 sur France Musique. Pour l'heure, nous sommes jeudi 28 mai, et il est 8h18. Peu importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Quand le génial Michel Legrand arrange, orchestre l'hymne à l'amour composé par Marguerite Monnot pour Piaf. D'ailleurs, Piaf, c'est elle qui en avait écrit les paroles. Ça donne cet enregistrement de 1956 sur l'album Bonjour Paris de Legrand et son orchestre. Et c'est cette musique, cet arrangement qui a inspiré Nicolas Rombaud. Il est danseur au Ballet du Capitole de Toulouse pour une chorégraphie. Son titre, Emporté, c'est un quatuor confiné de danse. Et il vient de remporter, Nicolas Rombaud, les premiers concours chorégraphiques depuis chez vous. C'est le nom du concours. Il est invité du coup au festival Le Temps des Baies à Biarritz et il travaillera avec les danseurs du Malentin Ballet Biarritz. France Musique, 8h23, c'est l'heure de rejoindre Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous emmenez où ? Vous nous emmenez dans les Vosges où l'école nationale de lutherie de Mirecourt fête cette année ses 50 ans.
Un demi-siècle, oui, qu'on apprend l'art de la lutherie à Mirecourt. L'école française, reconnue dans le monde entier, devait célébrer son changement de dizaine au mois de juillet pendant 4 jours de festivités. Mais Covid-19 oblige, le rendez-vous est carrément reporté d'un an. Ce sera du 1er au 4 juillet 2021. Il faut dire que le programme des réjouissances était dense. Des conférences, des expositions, des concerts, bien sûr, avec les cordes à l'honneur. Et le très attendu premier concours international de lutherie, concours de fabrication de violons et d'archets. Une première édition qui devra donc attendre encore un an. C'est une bonne nouvelle, hein. Du coup, pour les luthières et luthiers qui n'avaient pas pu se présenter cette année, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 1er mai 2021. Quant à l'école de Mirecourt, à qui on souhaite quand même un bon anniversaire ce matin, elle est créée en 1970 à Mirecourt, donc en plein dans le massif des Vosges, dans le berceau de la lutherie française. Et oui, on fabrique des violons en Lorraine depuis le 16e siècle, époque où le duc de Lorraine aurait ramené des luthiers et de fins musiciens de ses voyages en Italie. Au début du siècle suivant, plusieurs luthiers ouvrent leurs ateliers à Mirecourt. Ils sont 43 en 1635 et ce n'est que le début. Alors aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de luthiers à Mirecourt, qui est surtout connu pour son école. Sachez quand même que c'est le seul et unique lieu de formation publique en France qui est consacré à la lutherie du quatuor. L'école forme ses étudiants au CAP puis au diplôme des métiers d'art de lutherie. Ils sont seulement 12 par promotion, retenus parmi une centaine de bacheliers candidats chaque année. 12 élèves qui s'engagent dans un métier aussi noble que magnifique, mais qui subit de plein fouet la concurrence de la fabrication industrielle à grande échelle, venue notamment des pays asiatiques. Mais l'heure est à la fête et un site internet dédié à l'anniversaire de l'école a été créé. Je vous invite à vous y rendre si vous voulez suivre toutes les infos. L'adresse sera indiquée à la page de ma chronique sur francemusique.fr. Et en attendant les 50 ans en juillet prochain, il y a d'autres rendez-vous à ne pas manquer pour les fanas de cordes, comme le concours de violon de Mirecourt. La 6e édition aura lieu, si tout va bien, du 14 au 22 novembre et les violonistes de moins de 26 ans de tous les pays ont jusqu'à mi-juillet pour envoyer leur candidature.
Et donc l'adresse du site internet dédié à l'anniversaire, c'est sur francemusique.fr, sur la page de Musique Connectée où on retrouve, on réécoute la chronique. Suzanne Gervais, à demain.
À demain Jean-Baptiste.
Voici du violon. Tiens, quel violoniste on pourrait écouter ? Julien Chauvin par exemple, son dernier disque, Vivaldi, avec le concert de la loge. objectif, enregistrer toute l'œuvre du compositeur. Voici une nouvelle pierre à l'édifice, ce nouvel album de la collection Vivaldi chez Naïve, avec ses concertos enregistrés par le Concert de la Loge, dirigé par Julien Chauvin du violon. C'était ici le final allegro de son concerto pour violon en sol mineur numéro 321 au catalogue de Monsieur Rion.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
La musique vivante revient à la maison de la radio sans public, mais avec des artistes qui meurent d'envie de jouer à nouveau sur scène et d'être entendus à la radio. Michel Aurier, le directeur de la musique et de la création de Radio France, nous dévoile cette reprise tant attendue en avant-première sur France Musique dans 20 minutes. Attendu aussi le nouveau disque du claveciniste Jean Rondeau avec le luthiste Thomas Dunford. Il est consacré à la musique française de François Couperin, Marat Marais ou encore Robert Devizé. Ça sort demain. Premier extrait à 9h moins le quart. Et puis les annonces du ministre de la Culture de Franck Riester sur l'ouverture progressive des salles de spectacle interpelle les professionnels. On en parle dans 10 minutes avec Sophia Anastasio. Mais pour l'heure, il est quasiment 8h30. L'heure du journal d'Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. C'est un double bras de fer qui se joue désormais s'agissant de la situation à Hong Kong. L'affrontement est à la fois politique et diplomatique. Les États-Unis réclament une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, mais la Chine refuse d'en entendre parler. Pékin considère que cette demande américaine est sans fondement. Pas question pour le régime que Washington mette son nez dans les affaires internes du pays. La Chine veut en effet imposer aux habitants de Hong Kong de nouvelles règles dites de sécurité nationale. Le Parlement chinois doit les valider très rapidement. Ces mesures, débattues en ce moment par l'Assemblée nationale populaire, vont remettre en cause l'autonomie de l'ancienne colonie britannique. Dominique André nous appelle de Pékin.
Après un an de contestations grandissantes contre le pouvoir central, Xi Jinping contourne le parlement local hongkongais en imposant une loi depuis Pékin. L'Assemblée nationale populaire, nom du parlement chinois, va donner son feu vert à l'élaboration d'une loi qui servira à lutter officiellement contre la sécession, la subversion, le terrorisme et l'ingérence étrangère dans la ville. Une commission se réunira après le vote pour rédiger la loi dans ses détails. Le texte provisoire prévoirait la création d'une agence chinoise de renseignements à Hong Kong, ainsi que des changements fondamentaux sur le plan judiciaire. Actuellement, la cour d'appel finale, la plus haute cour hongkongaise, compte 23 juges, dont 15 étrangers originaires de Grande-Bretagne, du Canada et d'Australie. Dans la nouvelle loi, ils ne pourraient plus juger les affaires de sécurité nationale. La loi pourrait être adoptée avant les élections législatives hongkongaises prévues en septembre.
Piqué au vif, Donald Trump va signer d'ici ce soir un décret contre les opérateurs des réseaux sociaux. La Maison-Blanche ne veut pas en dire plus pour l'instant. Donald Trump ne décolère pas contre Twitter qui pour la première fois a demandé à ses utilisateurs de vérifier le bien fondé des deux messages du président à propos du vote par correspondance. 750 milliards d'euros, c'est finalement le montant du plan de relance économique proposé hier aux États membres par la Commission européenne. Particulièrement touchés par l'épidémie, l'Italie et l'Espagne seront les principaux bénéficiaires des aides de l'Union, qui prendront donc la forme de prêts et de subventions. Ce plan doit encore être validé par tous les dirigeants européens, si possible, avant la fin du mois de juillet. Un conseil de défense ce matin autour du chef de l'État pour d'ultimes arbitrages, et puis à 17h, cette prise de parole du Premier ministre, très attendue notamment par les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie-restauration. Les élèves des collèges et des lycées qui n'ont pas encore repris le chemin de l'école connaîtront eux aussi la date pour un retour dans les établissements scolaires. Édouard Philippe détaillera la phase 2 du déconfinement qui débutera donc la semaine prochaine. Pas de retour à la normale a priori, mais une carte de France beaucoup moins rouge qu'au début du mois. La situation sanitaire s'améliorant partout ou presque, Solène Lehen.
Si l'on s'en tient aux indicateurs du gouvernement du 11 mai dernier, ceux du déconfinement, oui, toute la France doit apparaître en vert. Feu vert pour toutes les conditions imposées par les autorités de santé. Pas de difficultés notables pour dépister toutes les personnes qui présentent des symptômes. Les passages aux urgences pour cause de Covid représentent partout moins de 6% des patients examinés aux urgences. Et dans toutes les régions, les lits de réanimation sont occupés à moins de 60% par des malades graves du Covid-19. Malgré tout, il demeure un point épineux, celui touristique de l'Île-de-France. La situation s'est améliorée, mais il reste 650 personnes en réanimation, 7000 à l'hôpital, c'est beaucoup. Et surtout, le tableau est disparate. Le département du Val-d'Oise, par exemple, apparaît en difficulté avec de nouveaux foyers de cas de Covid ces derniers jours. Une des options envisagées par le gouvernement, ce serait alors de détailler davantage la carte de la région et de laisser seulement certains départements en rouge.
L'application Stop Covid, validée par les députés puis par les sénateurs, malgré les protestations de l'opposition et de quelques élus de la majorité, cet outil de traçage numérique sera donc téléchargeable dans les tout prochains jours, a priori à partir de lundi. Sur la base du volontariat, Stop Covid va permettre à une personne touchée par le coronavirus d'alerter les autres utilisateurs de cette application avec lesquels elle a eu un contact de plus de 15 minutes. Pas de remise en liberté pour Félicien Kabouga, la cour d'appel de Paris a refusé hier de répondre favorablement à la demande de ses avocats. Arrêté après plus de 20 ans de cavale, le financier présumé du génocide rwandais risque des poursuites devant la justice internationale. Et puis encore un peu de patience pour les deux astronautes américains qui doivent rejoindre, on le sait, la station spatiale internationale affrétée par SpaceX qui appartient au milliardaire Elon Musk. Leur fusée n'a pas décollé hier soir de Floride. Le vol a été reporté à samedi en espérant d'ici là une amélioration des conditions météo. Toujours beaucoup de soleil sur la plupart des régions. Comme hier, il y aura des averses et des orages en montagne sur les Alpes du Sud et sur les Pyrénées. Les températures de 10 à 19 degrés ce matin et de 17 à 32 degrés cet après-midi, Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal 5 sur 5 d'Olivier Doré. À demain, Olivier.
À demain.
À quoi le concert de demain ressemblera-t-il? Sera-t-il différent des concerts d'avant la crise? C'est les grandes questions qu'on pose en ce moment et c'est la question que les équipes web de France Musique posent à des musiciens. C'est une nouvelle série de vidéos où ces artistes jouent également, mais cette fois en plein air. Sur la première vidéo diffusée en début de semaine, c'est le hautboïste Gabriel Pidoux, révélation instrumentale aux dernières victoires classiques. Gabriel Pidoux donc qui se produit dans les bois, sur un arbre perché quasiment. Et puis sur la nouvelle vidéo diffusée elle hier soir sur francemusique.fr et sur les réseaux sociaux. Cette fois, c'est la pianiste Marie-Joseph Jude et le quatuor de saxophone Ellipsos qui jouent West Side Story, qui eux aussi répondent aux questions sur le concert d'après la crise. Les Ellipsos jouent ici non pas Bernstein, mais Maurice Ravel, leur version du tombeau de Couperin. Thank you. Les couleurs magnifiques du quatuor Ellipso, ce quatuor de saxophone qui sonne parfois comme un cor anglais. Ici le rigodon du tombeau de Couperin de Maurice Ravel, France Musique, 8h39. Voici Sophia Anastasio. Pour Classique Info, bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste.
Alors, on commence avec le monde de la culture qui fait part une fois de plus de ses inquiétudes.
Plusieurs syndicats du spectacle vivant, parmi lesquels le Prodis, ont réagi aux déclarations du ministre Franck Riester sur une éventuelle réouverture progressive des salles en juin. Non à l'improvisation, oui à la programmation raisonnée et anticipée, écrivent les signataires. Ils demandent des temps de mise en œuvre pour préparer la reprise face à des contraintes sanitaires peu adaptées au secteur. Ils attendent les annonces du Premier ministre aujourd'hui concernant la suite du déconfinement.
Et justement, dans un autre communiqué, plusieurs organisations dénoncent un manque de cohérence depuis le début de la crise dans les diverses annonces du président de la République et du gouvernement.
La tenue de petits festivals, souvenez-vous, à partir du 11 mai, une fête de la musique qui aura bien lieu, l'absence de limitation intermédiaire entre les événements de plus de 5000 personnes et les regroupements de plus de 10 interdits jusqu'au 2 juin. Vos annonces distillées au compte-gouttes, contradictoires et incohérentes, épuisent les acteurs, écrivent les signataires, France Festival ou encore le réseau des indépendants de la musique.
La région Nouvelle-Aquitaine réduit des subventions accordées aux institutions culturelles.
C'est à lire dans la lettre du musicien. La région a voté le 15 mai dernier une baisse de 466 000 euros dans les subventions accordées à 6 institutions culturelles. Parmi elles, la scène nationale du Théâtre Auditorium de Poitiers et l'Opéra National de Bordeaux. L'Opéra touchera 200 000 euros en moins, une somme qui peut paraître absorbable, explique Olivier Lombardi, son administrateur général, mais qui correspond à notre marge artistique. 200 000 euros, c'est une production lyrique en moins. La région justifie ces baisses par la volonté d'un rééquilibrage des subventions.
Et Marc Minkowski, je précise, directeur général de l'Opéra de Bordeaux, sera notre invité demain dans Musique Matin à 9h moins le quart. Autre info, Sophia, alors que l'Allemagne a largement assoupli les mesures prises en mars pour tenter de contenir la pandémie, le chant demeure largement interdit dans le pays.
Les Allemands peuvent aller au restaurant ou même nager, mais les chorales n'ont toujours pas le droit de répéter. Selon plusieurs études, chanter produit un nombre élevé de microparticules potentiellement infectieuses. En mars dernier, 30 membres de la chorale de la cathédrale de Berlin avaient été contaminés après une répétition. Une situation qui alarme les chanteurs du pays. 5 grandes chorales masculines ont adressé une lettre au gouvernement affirmant que leur existence est menacée.
Et on termine avec une récompense pour Aurélien Dumont et pour Claire Désert.
Sur proposition de l'Académie des Beaux-Arts, le compositeur Aurélien Dumont a reçu le prix de commande de la Fondation Simone Echino del Duca. Le prix d'interprétation a donc été attribué à la pianiste Claire Désert.
Pour son disque, j'imagine, Schumann, super Claire Désert. Merci beaucoup, Sophia Anastasio. On retrouve ces infos, certaines d'entre elles, sur francemusique.fr. Il faut aller dans la rubrique Actualité musicale, c'est tout en haut, au milieu. À demain, Sophia.
C'est très simple, à demain.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Allez, notre nouveau disque du jour, c'est une avant-première, il sort demain, il est très attendu. C'est celui de deux amis, le claveciniste Jean Rondeau et le luthiste Thomas Dunford, qui d'ailleurs ici joue un archiluth, soyons précis. Titre de l'album, Barricade, référence à François Couperin, les barricades mystérieuses, car c'est la musique française de la fin du XVIIe, du début du XVIIIe siècle. Ils ont enregistré sur cet album qui paraît chez Erato, Couperin, mais aussi Marin Marais, Robert de Vizé et quelques autres. Hommage à l'école française du clavecin, donc à la forme binaire utilisée dans les compositions de cette époque. Sur certaines plages du disque, ils sont d'ailleurs rejoints par des chanteurs, la mezzo Léa Desandres et le baryton Marc Moyon. Alors on aurait pu écouter les barricades mystérieuses de François Couperin dans cette version clavecin archiluth, pour rien vous cacher. D'ailleurs c'est ce que j'avais prévu, puis ce matin en venant comme ça à la radio sous le soleil, j'ai réécouté le disque et je me suis dit, bah non, écoutons plutôt une musique moins connue, celle de Forqueray, plus péchu et presque rock'n'roll.
Thank you.
La musique d'Antoine Forqueray, Jupiter, extraite de la cinquième suite pour Archie du Clavecin, avec donc Thomas Denford et Jean Rondeau. C'est leur nouveau disque, il sort demain chez Erato, un disque soutenu par France Musique. Il est 8h48.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et notre invité ce matin, c'est Michel Aurier, directeur de la musique, la création à Radio France. Bonjour.
Bonjour.
Plus de 2 mois qu'il n'y avait pas eu de musique vivante, pas de musicien à la maison de la radio. Michel Aurier, vous êtes avec nous pour une très bonne nouvelle. Les concerts vont reprendre. Vous allez nous annoncer dans quelques instants sur France Musique les programmes de ces concerts. Mais d'abord, ces concerts qui vont reprendre dans quelques jours et pour plusieurs semaines, dans quelles circonstances vont-ils reprendre ?
Ils vont reprendre pour ce qui est notre premier public, nous qui sommes des formations de radio, c'est-à-dire nos auditeurs, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre sans le public de la maison de la radio. Nous ne pouvons pas, évidemment, comme l'ensemble des théâtres et des institutions, recevoir de public dans la salle, mais nous pouvons jouer pour notre public, pour les auditeurs. Et donc, nous, à partir de la semaine prochaine, nous allons reprendre le travail. C'est une grande joie pour toutes nos musiciennes et tous nos musiciens, en tout cas en ce qui concerne les deux orchestres de la maison.
Alors justement, Michel Aurier, ça commence quand et avec qui on retrouve nos orchestres en formation plus réduite, j'imagine ?
Alors évidemment, ce sont des formations plus réduites. On a fait de cette contrainte une sorte de fil artistique, hein, puisque on peut essentiellement travailler avec des cordes, avec des percussions, quelques vents. Mais évidemment, ce ne sont pas on ne peut pas travailler le grand répertoire symphonique comme on le fait habituellement. Par contre, on peut travailler des partitions qui sont des petits bijoux. Sur lesquels on s'est beaucoup focalisé, pour lesquels on a réussi aussi à retrouver des chefs et des solistes magnifiques avec lesquels on avait envie de travailler. Et dès la semaine prochaine, l'Orchestre Philharmonique de Radio France travaillera sous la baguette de Kent Nagano. Et puis ça sera Daniele Gatti qui viendra avec l'Orchestre National de France, Daniel Harding qui succédera ensuite avec un concert de l'Orchestre Philharmonique, Leonardo Garcia Alarcón, François-Xavier Roth, Renaud Capuçon qui va venir aussi jouer et diriger l'Orchestre National de France, Barbara Hannigan qu'on retrouvera avec le Philhar, et Christian Macellaru qui est le prochain directeur musical de l'Orchestre National de France. Enfin, voilà, je pense qu'on a, en tout cas, on a construit un très joli programme qu'on brûle de délivrer à nos auditeurs.
Des concerts qui seront diffusés quasiment tous en direct sur France Musique. On note d'ailleurs le premier, c'est samedi 6 juin, 20h. C'est d'ailleurs assez émouvant. Et puis, bien sûr, le public qui vient d'habitude, il voit des musiciens. On pourra voir un certain nombre de ces concerts aussi grâce à Arte Concerts, Michel Aurier.
Oui, on est très heureux de ce partenariat avec Arte qui nous permet de faire de notre auditorium une grande salle de concert virtuelle et de pouvoir arriver très tranquillement chez tout un chacun avec toutes ces œuvres, avec Dutilleux, avec Honegger, avec Messiaen, avec Stravinsky, avec Bartok, avec Bach, enfin voilà, avec tout ce qu'on va pouvoir interpréter pendant ce mois et demi.
Un petit mot des mesures sanitaires qui seront prises. Quelle distance physique entre les musiciens, quid des instruments avant ? Vous avez dit quelques-uns. Est-ce qu'il y aura du plexiglas ? C'est des questions et des choses qu'on entend ces jours-ci, avec quand même des études qui sont de plus en plus optimistes, encourageantes.
Alors c'est vrai qu'on n'est pas du tout, et c'est ce qui est un peu encourageant, on n'est pas du tout dans l'état d'esprit où on était il y a encore 4 à 6 semaines. Chaque jour, il y a de nouvelles études qui sortent. Alors évidemment, il faut être très prudent, et les musiciens, comme l'ensemble des Français, sont très prudents. Et bien évidemment, il n'est pas question de prendre le moindre risque et de les exposer. Donc il y a effectivement des distances qu'on respecte. Il y a une forme de distanciation sociale qui modifie la disposition de l'orchestre, hein, puisqu'il faut 1,5 mètre entre chaque tête dans le dans le quatuor, et puis au-delà, il faut des distances plus importantes quand il s'agit de vent. Encore une fois, il y aura très peu de vent sur les programmes qu'on a choisis aussi pour en raison de ces questions-là. Et puis on travaille beaucoup en ce moment à envisager la reprise du chœur et de la maîtrise de Radio France, qui ne peut pas l'être dans cette séquence-là, bien évidemment, mais qu'on a très envie aussi de revoir, et je pense beaucoup à nos chanteurs et à nos chanteuses en ce moment, parce que c'est évidemment pas évident pour eux de ne pas pouvoir chanter ensemble.
Michel Henry, quel bilan vous tirez de ces deux mois et demi où on a vu notamment des vidéos des formations musicales de Radio France qui ont fait le tour du monde?
Oui, je pense que ça a été... Il y a eu un réflexe de survie qui a été magnifique de la part des formations musicales. Et puis, du coup, une inventivité, une créativité qui nous a permis de vraiment de se servir du numérique dans ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire de tisser une sorte de communauté humaine de façon presque instinctive, et à la fois pour jouer avec des titres du répertoire. Je pense notamment à ce qu'a fait l'ONF avec le Boléro sous l'arrangement de Didier Benetti, ou à ce qu'a fait le Filard sur Smile de Chaplin. Mais au-delà de ça, on s'en est aussi servi comme d'un outil pédagogique formidable et comme d'un outil de pratique collective. On a réussi, mine de rien, à faire survivre à l'orchestre un orchestre de 1800 personnes, ce qui est sur la valse de Tchostakovitch, ouais. ce qui est quand même formidable. Et ça, pour nous, pour l'avenir, ça va changer des choses.
Vous parlez d'avenir, justement, Michel Aurier, d'un mot, sur quel scénario vous planchez pour la reprise des concerts en public? Septembre, plus tard, on n'en sait rien?
C'est difficile de donner des dates. Évidemment, on a envie de jouer ce qu'on a prévu de jouer pour la saison prochaine, et pour l'instant, on y croit. Dans le même temps, on travaille quand même sur des plans de substitution au cas où la pandémie ne disparaîtrait pas assez vite. Bon, après, les tendances en ce moment, les courbes sont plutôt rassurantes. On attend tous ce que va dire le Premier ministre cet après-midi, mais... Voilà, on espère quand même que, vous savez, pour l'ensemble de la culture, pour l'ensemble du spectacle vivant, pour l'ensemble des artistes, et vous le savez bien, France Musique, c'est une période qui est épouvantable. Il faut vraiment qu'on en sorte, il faut vraiment qu'on se donne les moyens d'en sortir. Alors évidemment, la pandémie, c'est une réalité, hein, il faut travailler en fonction de ça, il faut faire avec, mais il faut vraiment qu'on trouve les voies de sortie le plus tôt possible, parce que sinon... les dégâts sont considérables pour notre secteur et pour nos publics.
Une bonne nouvelle, très heureuse nouvelle que vous nous annoncez donc ce matin, Michel Aurier sur France Musique. Premier concert à la Maison de la Radio en direct sur France Musique, samedi 9 juin, dans 9 jours, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Kent Nagano. Le 6 juin. Et des concerts également avec les orchestres, avec les formations de chambre, Quatuor Ebène, Quatuor Diotima, une intégrale des sonates pour piano de Beethoven qui devait avoir lieu en mars et qui aura lieu toute fin juin. On a commencé cette émission avec l'Orchestre National de France, c'est avec l'autre orchestre de Radio France, l'Orchestre Philharmonique, que l'on se quitte, et son dernier disque avec son chef Mikko Franck, la fin du poème symphonique « Ce que l'on entend sur la montagne ». Merci Michel Aurier.
Merci Jean-Baptiste.
les dernières mesures de Ce qu'on entend sur la montagne, poème symphonique de César Franck, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Mico Franck, extrait du disque Franck by Franck, dont nous parlait d'ailleurs Émilie Munera et Rodolphe Bruno-Boulmier hier. C'est oui. La fin de Musique Matin. J'ai le droit quand même de dire qui a participé à l'émission.
C'était notre disque du jour.
À notre tour. Merci. Voilà,
avec Xavier Atto, Emmanuel Dupuis, Yacine Bouzard, Marion Guillemette, Aïssia Froidure, Margot Muller. Demain, notre invité sera le chef Marc Minkowski. Et ils piaffent, ils n'en peuvent plus. Les voici, Émilie Munera, Rodolphe Bruno-Boulmier, avec des perruques poudrées pour nous emmener chez Louis XIII aujourd'hui.
On n'a plus envie de parler. Ouais. C'est trop tard.
On voulait le dire avant. Maintenant, ça suffit. Et un doux sommeil. Voilà. C'est ça qu'on veut dire. C'est l'heure de cours et c'est ainsi.
Sébastien Dossé.
Oui, Sébastien Dossé. Vous avez, je suis sûre que vous avez aimé ce disque.
Mais oui, on l'avait même reçu. C'était notre dernier invité avant confinement.
Ah, bah voilà. Donc, du coup, ça vous rend un peu nostalgique.
Du monde d'avant.
Oui, du monde d'avant.
Se projeter vers l'avenir.
Voilà, parce que vous êtes positif.
Totalement.
C'est superbe.
Je sais.
À demain, Jean-Baptiste.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.